CFM, en Tarn-et-Garonne. Le MAG.
Bonjour tout le monde, merci d'être avec nous dans ce MAG où on va vous raconter des histoires aujourd'hui. À travers des archives d'il y a 200 ans, on va se plonger dans les forêts de Montricou pour une chasse au loup avec le service inventaire du patrimoine du pays Midi-Quercy qui nous parlera lieutenant de louveterie et organisation de battues d'époque. On vous lira donc des lettres pour la deuxième partie de ce MAG. Pour la première, ce sont des histoires aussi, puisque comme tous les mardis, il est temps de retrouver Victor Le Guenec pour la chronique des coups de cœur du réseau des médiathèques.
Les coups de cœur des médiathèques du QRGA. Et aujourd'hui, on cause guerre, nature, départ et magasin. Et on s'attarde, pour commencer, sur un manga. Que dis-je, on s'attable et on se délecte avec ce fin mec que nous a concocté Hayao Miyazaki pour sa toute première bande dessinée, Nausicaa de la Vallée du Vent. Ce manga de fantasy en 7 tomes se déroule 1000 ans après une guerre dévastatrice qui a détruit et pollué la Terre. Un monde aujourd'hui envahi presque en totalité d'une étrange forêt exhalant des vapeurs mortelles et abritant des créatures monstrueuses. Un monde où se déroulent sans fin des guerres de territoire sur les maigres terres habitables restantes. Et dans ce décor évolue Nausicaa, princesse de la Vallée du Vent, héroïne curieuse et sans préjugés qui va devoir aller se mêler au combat, combat contre les hommes, contre la nature et contre elle-même. Quand on approche la première œuvre d'un auteur talentueux, on peut espérer découvrir les prémices d'un futur génie. Nausicaa de la Vallée du Vent s'en contrefiche joyeusement. C'est un chef-d'œuvre, avec une esthétique immédiatement reconnaissable et un sujet systémique chez Miyazaki. Pas le combat de la nature contre les hommes ou des hommes contre la nature, mais bien celui de l'homme et de la nature ensemble pour non pas coexister, mais vivre savamment et sensiblement en harmonie. Une aventure épique donc, à travers un monde en destruction entre guerres perdues d'avance, batailles de succession et espoirs prophétiques où la seule chose manichéenne, c'est le blanc et le noir du dessin. Un dessin riche et extrêmement fourni, à la fois simple dans le trait mais tellement complet dans la signification. Les décors sont somptueux, les découpages particulièrement vifs, mais d'une vivacité étouffante, nous confrontant au désespoir de certains personnages enfermés dans leur idéologie, leur combat. Et tous entourés d'une nature hostile soulevant la question « Est-ce la fin du monde ou la fin d'un monde ?» Et ici, Miyazaki, comme à son habitude, nous livre avec une intelligence et une sensibilité profonde un message d'espoir rare qui frôle le divin. C'est tout simplement et irrémédiablement beau, d'une douce jouissance exutoire. En bref, un rêve dont on ne veut pas se réveiller. Et à ceux qui souhaiteraient se contenter du film, un film lui-même très bon, mais loin, très loin de traiter tous les sujets qu'aborde le manga. Et là, je fais mise. Dites-vous qu'il y a la même différence entre le film et le manga qu'entre le charbon et le diamant. À matière similaire, si l'un a son utilité, l'autre est un véritable bijou. À lire de toute urgence. Mais l'œuvre est riche et les chroniques sont courtes, alors passons tout de suite à ce deuxième conseil lecture avec Le Grand Livre des Gnomes, un roman ado, plutôt jeune mais tellement plaisant, de Terry Pratchett, Sir Terry Pratchett. Auteur mondialement renommé qui nous a régalé pendant 41 volumes avec ses annales du disque monde et son humour décalé. Cet anglais loufoque a écrit cette charmante histoire de gnomes qui doivent partir de leur trou sur une aire d'autoroute afin de trouver un nouvel habitat. Et voici Masklin, sa bande et le truc en route vers l'aventure. Mais tout devient facilement dangereux quand on mesure 10 cm et qu'on essaye de ne pas se faire, ne serait-ce qu'apercevoir par les humains. Être curieux au demeurant, dont on ne comprend pas bien les motivations, ainsi nos héros arrivent dans un grand magasin rempli de gnomes, des milliers de gnomes, qui ne croient pas en l'existence du dehors, d'où leur surprise quand des étrangers arrivent d'un monde de légende qui, en plus, leur apprend que le grand magasin va être détruit. Voilà comment commence une croisade pour la gnomité, afin de sauver leur existence et peut-être retrouver leurs origines. Terry Pratchett nous fait réfléchir bruyamment. Entendez en riant à gorge déployée sur la gnomité, l'humanité, la recherche des origines et tout l'existentiel de n'importe quelle question qui n'a pas de réponse. L'auteur a le bon mot facile et l'aphorisme récréatif, décalé mais terriblement pertinent. Ça détend, ça fait rire et ça fait réfléchir. Nausicaa de la Vallée du Vent de Miyazaki et Le Grand Livre des Gnomes de Terry Pratchett sont à retrouver sur votre réseau des médiathèques favoris. A très bientôt et bonne lecture.
Et toutes ces chroniques du réseau des médiathèques de Victor Le Guenec sont à retrouver en podcast sur le site cfmradio.fr et c'est tous les mardis.
uppercut to the cold upper middle class. Born a storm on boredom's face. Add a little lust to the funky SV bass. Most in the race just lose their grace. The blackest hole in all of space. Crooked as a hooker, now suck my thumb. Anybody wanna come get some? Anybody wanna come get some?
CFM Caylus, le mag.
On vous raconte des histoires dans ce mag aujourd'hui à travers des archives déterrées par le service inventaire du patrimoine du pays Midi-Quercy. On parle chasse au loup aujourd'hui avec Léa Gérardin-Macario. Bonjour Léa.
Bonjour. Il y avait le loup il y a encore 200 ans en pays Midi-Quercy.
Tout à fait. Et en cette période d'hiver et de fête de fin d'année, je suis donc venue vous raconter une histoire. Mais pas n'importe laquelle, une histoire inspirée donc de faits qui se sont vraiment déroulés il y a 200 ans. Au tout début du 19e siècle, dans les forêts de Montricou, village installé au bord de la rivière Aveyron, là où finissent ses gorges et ses causses et où s'ouvre la grande plaine vers Montauban. Nous sommes un jour d'hiver 1807. La France est un empire depuis 3 ans. Napoléon Bonaparte, fort de ses victoires militaires, engage de nombreuses réformes dans le pays. Étonnamment, il va opérer une synthèse entre certains acquis révolutionnaires et la reprise de principes traditionnels issus de l'Ancien Régime. Et l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est une illustration d'institutions d'Ancien Régime. Donc on est un froid matin du début de l'année 1807. Joseph Accurse Louis Rigal d'Ouvrier, seigneur de Villeglis, vicomte de Bruniquel, s'installe à son secrétaire et il entreprend de rédiger 2 lettres. Une au maire de Bruniquel et l'autre au maire de Montricou. Le brouillard plane au-dessus de l'Aveyron, que le château de Bruniquel surplombe, et il fait émerger les causses complètement dénudées en cette période hivernale. Ça fait plusieurs jours que des nouvelles alarmantes lui sont rapportées. Des dégâts ont été commis dans 2 métairies du Bretou. Le paysan Roumégou a perdu 3 chèvres et les enfants ont interdiction de rentrer de la glander à la tombée du soir. Le vicomte écrit alors, je vais vous lire la lettre, qui est l'archive qu'on a retrouvée, qui est la lettre adressée au maire de Bruniquel. Monsieur, étant informé des ravages que les loups, c'est bien d'eux dont il est question, commettent dans ces cantons, j'ai résolu de faire une battue dans les bois du Bretou, la forêt de la Garrigue et bois environnants. J'espère, monsieur, que conformément à l'invitation faite à toutes les autorités civiles et militaires par son Excellence le prince de Neuchâtel, grand veneur de l'Empire, de prêter aide et assistance à tous les officiers de louveterie, vous voudrez coopérer au succès de cette chasse en faisant prévenir les habitants de votre commune des articles suivants. Écoutez bien, on connaît là le ton d'un lieutenant-colonel. Alors, la chasse est ordonnée pour le 24 du mois courant. Le rendez-vous des traqueurs est à la métairie de la Dévèze, commune de Montricou, d'où ils seront dirigés là où il conviendra. L'heure est 5 heures du matin. Les tireurs borderont la muraille qui sépare le Bretou de la Garrigue, ainsi que celle qui l'entoure, selon où ira l'ordre de la chasse et comme il leur sera indiqué. Les traqueurs seront munis de tambours, cornes et crécelles et autres instruments propres à faire du bruit. Les tireurs ne se permettront sous aucun prétexte de tirer en allant ni en revenant du rendez-vous sur d'autres animaux que le loup, renard et ceux réputés nuisibles, sous peine de voir dresser contre eux un procès-verbal. On ne mènera aucun chien, autre que des mâtins ou des dogues, qui pourraient être utiles. Les chiens courants sont expressément prohibés. Si le mauvais temps empêchait de chasser au jour indiqué, la chasse est renvoyée au dimanche suivant. Je suis, monsieur, votre très humble serviteur, d'ouvrier de Bruniquel, lieutenant de louveterie.
Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire abracadabrantesque de loup à Montricou ? Et d'ailleurs, c'est quoi un lieutenant de louveterie ?
Aussi surprenant que ça paraisse, il y avait encore beaucoup de loups en France à cette époque, entre 10 et 20 000 individus au 18e siècle. Et c'est que dans les années 1930 que les derniers loups auraient disparu entre la Dordogne et la Haute-Vienne par la chasse. En 1807, donc dans un paysage localement encore essentiellement agricole et boisé, bien que moins boisé que ce qu'on voit aujourd'hui, car le bois était alors une ressource très sollicitée. Les loups trouvent donc un lieu de vie entre le causse de Montricou, Bruniquel, la forêt de la Grésigne. Et c'est là que Louis Rigal d'Ouvrier, donc le vicomte de Bruniquel, qui a écrit cette lettre, intervient. C'est un homme d'action, avant tout. C'est un ancien lieutenant-colonel, ancien capitaine de régiment royal des vaisseaux, donc c'est un régiment d'infanterie qui date d'avant la Révolution française. Et avec l'arrivée de l'Empire, il prend possession d'une charge qui s'appelle la louveterie. Donc c'est une très ancienne institution qui remonte au Moyen-Âge et qui avait disparu dans les années 1780 parce qu'elle coûtait trop cher à l'État. Mais elle a été réinstaurée par Napoléon Ier, donc quand il devient empereur, en 1804. Donc le louvetier, c'est, je vous cite, un officier qui commande l'équipage pour la chasse au loup. Il est régi par le grand veneur dont nous parle la lettre. C'est alors le prince de Neuchâtel, aussi connu sous le nom de prince de Wagram. C'est un maréchal d'empire qui accompagne Napoléon dans ses conquêtes. Et donc qui est le grand officier qui s'occupe des chasses impériales. Et donc notre lieutenant de louveterie, le vicomte de Bruniquel, c'est lui qui doit organiser la chasse au loup à Montricoult. Et d'ailleurs, il en tire bénéfice, puisqu'il va toucher normalement 2 deniers par loup ou 3 deniers par louve tués ce jour-là.
Il y avait donc bien des loups en pays midi Quercy, il n'y a encore pas si longtemps que ça. Ils sont aujourd'hui oubliés, quoique...
Bah, c'est dommage, c'est vrai qu'on... aujourd'hui, le loup revient pourtant en France, principalement dans les zones de montagne, mais d'après les scientifiques et notamment la documentation de l'Office français de la biodiversité, les loups sont susceptibles de recoloniser tous les lieux propices à leur installation, c'est-à-dire en fait des zones tranquilles, pas nécessairement en montagne, avec du gibier sauvage en abondance. Et où il joue un rôle de régulation de ce gibier sauvage. Bah, après, moi, en tant que chargée d'inventaire du patrimoine, je ne peux pas vous dire si le loup va revenir habiter chez nous. J'en sais rien, je ne suis pas observateur de la nature. Mais moi, ce que j'observe, c'est l'histoire. Et je vois dans les textes que j'étudie, les fonds d'archives qu'on dépouille au gré de nos enquêtes, des pièces d'archives comme cette lettre que je vous ai lue, qui sont des témoignages d'un monde qu'on a oublié, où le loup était encore là, partout. Et par exemple, j'ai aussi un exemple, par exemple au XVe siècle, Gaston Phébus, qui était le comte de Foix et seigneur de Béarn, il a écrit un livre de la chasse, donc au XVe siècle, et je vous le cite, ce qu'il nous dit à propos du loup. Donc il dit « Le loup est assez commune bête, aussi n'y a-t-il pas lieu de le décrire, car il y a peu de gens qui n'en aient vu. » On veut dire qu'au XVe siècle, le loup, il est vraiment partout. Et c'était vrai, en fait, encore jusqu'au XIXe, quasiment. Et pour terminer, les lieutenants de louveterie, ils existent toujours aujourd'hui. Et je vais vous citer ce que nous dit le président donc, de l'Association nationale des lieutenants de louveterie de France. Donc, les lieutenants de louveterie sont aujourd'hui des agents bénévoles de l'État, ayant une mission de service public. Désormais, ils veillent à maintenir dans nos plaines, nos forêts, nos montagnes, nos zones humides, une vie animale compatible avec les activités humaines, avec la santé publique, l'agriculture et la sylviculture. Donc, c'est aujourd'hui des acteurs essentiellement liés au monde de la chasse. Leur mission, elle est quand même d'accompagner la présence du loup en France sous la coordination de la brigade mobile d'intervention des grands prédateurs terrestres. Et ça, c'est l'Office français de la biodiversité. Par contre, les expertises menées par le Muséum national d'histoire naturelle signalent que la population de loups est quand même encore vulnérable dans le pays. Il y a environ 1000 loups en France aujourd'hui. Donc, cette lettre, donc de 1807, que je vous ai lue, elle nous parle quand même encore un petit peu de nos enjeux du quotidien, parce qu'aujourd'hui, on a vu que le loup vient d'être déclassé d'espèce strictement protégée en Europe à simplement protégée. Donc voilà, ces archives anciennes, elles nous rappellent une ancienne inimité entre le loup et l'homme, que nous, aujourd'hui, on doit encore déconstruire pour l'avenir.
Et cette archive nous servait de support pour ce mag. Il était donc une fois la chasse au loup à Montricoult, qui nous était racontée par Léa Gérardin-Macario, donc du service inventaire du pays midi Quercy. Merci beaucoup Léa.
Merci.
ce Do pour terminer ce mag. Mag que vous réentendrez lors des rediffusions de 18h et de 21h. Si vous ne pouvez pas attendre, faites le détour par le site internet cfmradio.fr. Tous nos podcasts sont mis en ligne. Restez pour la suite depuis CFM Montauban avec Rémi. Ce sera après les infos tout de suite.